Philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 3 février 94.
Peut-on préciser de quelle appréhension l'amour-passion est conséquent? Si c'est celle du bien sensible, comme convenant, possède-t-on une nouvelle forme attentionnelle autre que la forme attentionnelle de la sensation? Ou bien est-ce uniquement un nouveau jugement? Faisons attention. Bon, il y a deux points de vue très différents. Saint Thomas analyse les passions en théologien. La question ici est une question philosophique, je présume. Saint Thomas en théologien situe les passions par rapport à l'homme image de Dieu. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Je vous avais dit au terme, nous reviendrons dessus pour voir qu'est-ce que le philosophe peut dire sur les passions. Le théologien étudie les passions dans la lumière de Jésus et du Christ. Ça a été la grande préoccupation de Thomas d'Aquin. De montrer que dans le Christ, homme, il y avait des passions. Des passions tout à fait particulières. Des passions qui étaient tout le temps dans l'exercice de l'intelligence et de la volonté humaine. Des pré-passions. Parce que les passions n'étaient pas quelque chose de mauvais. Donc elles existaient dans le Christ. Ceci contre tout l'aspect stoïcien qui disent que les passions sont mauvaises et que le stoïcisme a eu une grosse influence sur les pères de l'Église. Parce que de fait, un fait historique, c'est que le stoïcisme était la dernière philosophie présente à Rome au moment même où christianisme commençait son éclosion. C'est très intéressant du reste, à ce point de vue-là, au point de vue historique. On comprend très bien comment le stoïcisme, surtout avec Épictète. C'est pour ça qu'il faut lire Épictète. Parce qu'Épictète éclaire beaucoup de choses. L'homme intérieur et l'homme extérieur de Saint Paul, c'est dans Épictète. Il ne faut pas l'oublier. L'esclave devenu philosophe. Donc il a tous les grades, toutes les décorations possibles dans le monde d'aujourd'hui. L'esclave devenu philosophe. Alors on ne peut pas dire que la philosophie c'est pour les gradés. Ce qu'on est toujours un peu tenté de dire. Non, pas du tout. C'est l'esclave devenu philosophe. Et quelquefois l'esclave est beaucoup plus proche de la philosophie que le gradé, que l'élite. Parce que l'élite, il y a beaucoup de conventionnels. Tandis que vie a supprimé tout cet aspect génétique. Il y avait uniquement un ordre de perfection. C'est très bien pour le théologien, mais il y a un manque pour le philosophe. La passion doit s'étudier génétiquement. Comment naît la passion? Et puis, on doit situer la passion. Alors ça, saint Thomas nous aide beaucoup par rapport aussi à l'appétit spirituel, l'appétit intelligible de la volonté. La passion, elle est entre l'instinct et l'acte volontaire. Vous voyez comme c'est passionnant. Alors la passion peut permettre à l'instinct de devenir monstrueux. C'est ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. C'est par les passions que l'instinct est monstrueux. Et ce qu'on dit sur les passions, sur l'instinct aujourd'hui est constamment propre aux passions. Il y a l'imaginaire. C'est une façon de légitimer les passions et l'imaginaire que de dire que c'est l'instinct. Vous voyez, l'instinct sexuel, il prend tout chez Freud. Ça, c'est sûr. C'est pas du tout l'instinct. C'est le gonflement par le point de vue passionnel et imaginatif. Et les passions sont entre l'instinct et l'acte volontaire. Mais il y a une intelligence propre de la passion. Alors la question posée ici, peut-on préciser de quelle appréhension l'amour passionnel est conséquent ? Il n'est pas content. Alors il fait du chahut. L'amour passionnel est au niveau sensible. Alors pourquoi parler d'appréhension? L'appréhension est un acte intellectuel. La passion en soi n'est pas intellectuelle. Mais l'exercice de la passion, tel que l'homme le vit, implique toujours un apport intellectuel. Donc il faudra distinguer les deux au point de vue philosophique. Je peux analyser ce qu'est la passion en soi. Alors à ce moment-là, l'éveil de l'amour sensible se fait par les sensations. Et si je regarde le point de vue de la passion dans mon exercice de vie humaine, je ne parle pas de l'appréhension, je parle toujours d'un jugement. C'est un bien sensible. Et le bien sensible, c'est pas l'appréhension, c'est le jugement. Est-il vraiment nécessaire de poser une nouvelle puissance, la cogitative, entre le domaine sensible et l'intelligence? Et de le distinguer d'une estimative chez les... Et de la distinguer d'une estimative chez les brutes. Cogitative, estimative. Chez les brutes, c'était les animaux, hein, vous comprenez, hein. Ça, c'est pour réveiller les gens. Alors, ceci provient d'Avicenne. Alors, doit-on l'accepter ou pas l'accepter? C'est qu'il y a quand même quelque chose de très particulier. C'est justement dans l'ordre de l'exercice. J'ai une connaissance particulière par la cogitative de ce qui me convient. Et l'estimative, ce qui convient à l'animal. C'est un fait que les animaux s'empoisonnent plus difficilement que les hommes. Parce qu'il n'y a pas d'animaux sorciers. Tandis qu'il y a des hommes et des femmes sorciers et sorcières. Hein, alors là, c'est un domaine très particulier et très intéressant. Parce que ça relève justement de la cogitative. saint Thomas distingue l'appétit sensitif de la volonté à partir de l'appréhension dont ils sont conséquents, relève-t-il que ce traité est proprement critique. Il est théologique et critique. Alors c'est compréhensible. L'analyse du théologien est toujours moins poussée que celle du philosophe, parce qu'elle est en vue de la révélation. Elle est pour la révélation. Et ici, elle est pour le traité du Christ. C'est pour ça que c'est pas étonnant que je fais intervenir dans le traité des passions des éléments qui sont proprement humains. Et qui ne sont pas directement la passion. Le philosophe devrait être beaucoup plus attentif à préciser ce qu'est la passion comme telle et l'exercice de la passion. Le Tiesti et le Pose. Je vous ai déjà dit que le théologien ramène le Tiesti au Pose. Alors, continuons cette lecture rapide, un peu trop rapide, mais pas beaucoup de temps. Elle est intéressante à voir. On étudie la cause de l'amour. Le bien est-il la seule cause de l'amour? La connaissance est-elle cause de l'amour? Vous voyez? Alors, le bien est cause de l'amour, puisque c'est le bien qui attire. Et c'est cette attraction du bien qui suscite en moi cette réponse et cette amour. C'est le bien qui spécifie l'amour. L'intelligence et la connaissance est nécessaire à cette éclosion d'amour. Non pas comme cause efficace, non pas comme cause finale, ni comme cause spécifique. L'amour n'est pas spécifié par la connaissance que j'ai du bien. Mais l'amour est spécifié par le bien lui-même. Ceci, c'est très important, ce que je vous ai déjà dit, pour l'amour d'amitié, par exemple. Si, entre deux amis, entre l'époux et l'épouse, où il y a une amitié, l'amour de l'époux est spécifié par la connaissance qu'il a de son épouse, vous voyez que ça peut être catastrophique. Il découvre dans son épouse des tas de défauts qu'il n'avait pas vus au point de départ. naît entre la connaissance, la cause qui spécifie et la condition sine qua non. C'est une condition sine qua non, mais au niveau vital. La condition sine qua non au niveau vital est de l'ordre de la disposition. Pas de l'ordre de la spécification, et plus qu'une condition sine qua non au niveau purement spéculatif. Alors voyons maintenant, tout de suite, l'article 3. La ressemblance est-elle cause de l'amour? Tout animal aime son semblable, dit l'écriture. Je comprends qu'il faut que l'écriture soit citée pour dire que tout animal aime son semblable. N'est-ce pas? C'est l'Ecclésiaste. 13-19. Omne animal, dilivit, simile simi, asinus frecat, asinum. L'écriture est plus polie. La ressemblance est proprement, à proprement parler, cause et cause de l'amour. Similitudo, proprié, loquendo, est causa amor. Mais il faut remarquer qu'elle peut se vérifier à un double titre. Premièrement, du fait que les deux termes de la ressemblance possèdent en acte une même réalité. Comme on dit semblable, deux êtres affectés de blancheur. Tous les deux sont blancs. Ils sont semblables dans la blancheur. Deuxièmement, parce que ce que l'on possède en puissance et par une sorte d'inclination, l'autre le possède en acte. En ce sens, nous dirons qu'un corps lourd situé hors de son lieu naturel a de la ressemblance avec un corps lourd qui se trouve dans le sien, ou encore selon que la puissance ressemble à l'acte lui-même, car l'acte existe d'une certaine manière dans la puissance elle-même. Donc vous voyez, deux états différents de la similitude. Deux similitudes en acte. Une similitude en puissance et l'autre en acte. Le premier genre de ressemblance, donc de similitude en acte, et cause de l'amour, d'amitié et de bienveillance. Donc, vous voyez, on quitte le traité de la passion, on est en théologie. Ça m'avait beaucoup troublé la première fois que j'ai lu ça. Je me dis, mais quoi, qu'est-ce que Saint Thomas? On est en théologie. Ça, c'est la liberté du théologien. Il passe d'un degré à l'autre, ça n'a pas d'importance. Il dit, qu'est-ce que c'est que l'amour? Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? En théologien, le pos de l'amour, puisque l'amour est divin. Dieu est amour. Si Dieu est amour, je ne peux le connaître que le pos de Dieu, le comment de l'être de Dieu. Ouais, très très bien. Et tout ça, c'est sur la ressemblance, la similitude. La similitude peut être source d'amour. La similitude peut être source de rivalité. Et la rivalité engendre la jalousie et engendre la haine. Donc deux êtres semblables peuvent être en haine l'un contre l'autre parce qu'ils sont trop semblables. Et deux êtres semblables peuvent s'aimer follement parce qu'ils sont trop semblables. C'est ce qu'on voit tout le temps, ça. Mais alors, c'est pas très commode de dire que la similitude est cause d'amour, parce qu'elle peut être cause de rivalité, peut-être cause de haine. Et dans tous les romans, c'est ce qu'on voit. Et pas seulement dans les romans, mais dans la vie courante. Quand vous essayez de déceler pourquoi, après 25 ans de mariage, il y a de la haine. Ils étaient trop semblables. La complémentarité fait moins cela, parce qu'on l'a accepté dès le point de départ. Tandis que la similitude peut. Ah, c'est curieux ça. C'est très très curieux. La similitude peut être cause d'amour et devenir cause de haine, cause de jalousie. On est trop semblables. Il n'y a pas assez de diversité. Alors, voyons maintenant la réponse aux objections. Donc, pas de réponse à la première objection. La ressemblance est cause de la haine. Si les orgueilleux sont toujours à se quereller, dit l'Écriture. Les orgueilleux sont toujours à se quereller. Et les potiers se disputent, rapporte Aristote. Ça, c'est très très joli. Vous voyez, tout ça admirable. L'écriture, ce sont les orgueilleux. Et Aristote, c'est les potiers. Ça montre tout le génie différent de l'écriture et d'Aristote. Vous voyez, les potiers, c'est le fat géré, c'est l'œuvre. L'écriture, c'est l'orgueilleux, c'est le poids du moral. Elle ne saurait donc causer l'amour, son contraire. On a répondu. Saint Augustin écrit, alors maintenant Saint Augustin, donc, l'écriture, c'est les proverbes, c'est Aristote et c'est Augustin. Vous voyez les trois pieds de Saint Thomas. L'écriture, Aristote, Augustin. On aime en autrui ce dont on ne voudrait pas pour soi. Ainsi, on aime un acteur, bien qu'on ne veuille pas être acteur soi-même. Mais ceci n'arriverait pas si la ressemblance était la cause propre de l'amour. Car alors, on aimerait en autrui ce que l'on a soi-même ou que l'on désire avoir. De Saint Thomas. Du fait qu'on aime chez autrui ce qu'on n'aimerait pas pour soi, se vérifie encore une certaine ressemblance selon la proportionnalité. Le prochain est par rapport à ce que nous aimons en lui, ce que nous sommes nous-mêmes par rapport à ce que nous aimons en nous. Ça, c'est très calé. Hein. Ainsi, qu'un bon chantre, oui, est-ce que là, ainsi certaine ressemblance. C'est très juste, ça. Et c'est vrai que les vrais artistes s'apprécient. Et c'est mieux ça que le philistin qui n'a aucune espèce de qualité. Que l'homme qui, dans tout le prestige, et de faire les choses rapidement en série. Un véritable artisan apprécie un artiste. Mais il y a une ressemblance. Mais il peut aussi, dans d'autres domaines, être jaloux de l'artisan du coin qui fait exactement la même chose que lui. Mais comme c'est délicat, alors quel genre de causalité? C'était une causalité spécifique, il n'y aurait pas ça. Alors je prends tout de suite les deux dernières objections. Tout homme aime ce dont il a besoin, même s'il ne le possède pas. Le malade aime la santé, le pauvre les richesses. Or, en tant qu'on a besoin de ces choses, ou qu'on en manque, on n'a pas de ressemblance avec elles. Au contraire, de sorte que la dissemblance est aussi cause de l'amour. Réponse, celui qui aime ce dont il manque ressemble à ce qu'il aime, comme ce qui est en puissance, ressemble à son acte. Et puis, dernière objection, d'après le philosophe, nous aimons ceux qui sont généreux à nous aider pécuniairement et à nous sauver. Et de même, ceux qui gardent une amitié fidèle pour les morts sont aimés de tous. Or, tous les hommes ne sont pas tels, c'est donc que l'amour n'implique pas nécessairement la ressemblance. Mais c'est curieux ces objections, elles sont assez spéciales. Ce qui est intéressant ici, c'est que saint Thomas appelle Aristote le philosophe. Puisque ça regarde la rhétorique. Et dans la rhétorique, il est dit, nous aimons ceux qui sont généreux à nous aider pécuniairement. Ça c'est sûr. Hein. Parce qu'on sait que c'est la vache à lait. Hein. On peut donner tant. Alors on l'aime. Mais c'est un amour utile. Alors l'amour utile cherche ce qu'on n'a pas. Donc c'est pas du tout la ressemblance qui fait aimer. C'est la dissemblance. Alors, réponse de saint Thomas. Selon la même ressemblance de la puissance avec l'acte, celui qui n'est pas libéral aime celui qui l'est, en tant qu'il attend de l'autre ce qu'il désire. Oui, c'est très curieux. Aristote prend ses exemples du fat chéré. Et saint Thomas prend ses exemples de la durée. Ça, c'est bien de dire le. Le psychologue aime de prendre des exemples toujours à partir du fatchéré. Parce que c'est beaucoup plus clair. Le fatchéré est tout proche du psychologue. Tandis que la durée est beaucoup plus loin. Ça, il faut être très attentif à ça. C'est pour ça que la psychologie peut peut-être aider plus à former un acteur qu'un homme vertueux. La psychologie pousse davantage vers l'efficacité que vers la finalité. Donc elle s'incline davantage vers le fatuer. Ça c'est un fait et ça confirme. Aristote est plus proche, il sait très bien. L'art manifeste ce qui reste caché dans la durée. Mais c'est la fameuse question. Quand on aime, on chante. et la durée. Or, dans la liturgie, l'art et la durée sont unis. S'il n'y a plus de durée, il n'y a plus de prière. Il n'y a plus que la durée. Il n'y a plus que le fait durer. S'il n'y a que la durée, on garde le silence. Il n'y a plus de fait durer. Très, très curieuse. Hein. Tandis que là, les deux sont unis. Donc, selon la même ressemblance de la puissance avec l'acte, celui qui n'est pas libéral aime celui qui l'est. En tant qu'il attend de l'autre ce qu'il désire, il en est de même de celui qui persévère dans l'amitié à l'égard de celui qui n'y persévère pas. Dans les deux cas, l'amitié semble tout utilitaire. On peut répondre aussi, bien que tous les hommes ne possèdent pas les vertus par manière d'habitus parfait, ils les possèdent cependant comme en germe dans leur raison, de telle sorte que celui qui n'est pas vertueux aime celui qui l'est, selon que celui-ci répond aux requêtes de la raison naturelle. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, comme saint Thomas tout de suite emploie reste dans la durée, l'amitié. Et comment Aristote regarde la durée. Vous voyez, de l'utilisation de Thomas d'Aquin d'Aristote. Aristote parle des passions en rhétorique. Or, la rhétorique est un art. Saint Thomas parle des passions en théologie morale. En théologie tout court. Et passage des deux. Si je parle des passions uniquement en rhétorique, dans l'art, je suis tout proche du psychologique. Si, au contraire, si je parle des passions au point de vue éducatif, vers la sainteté, c'est la durée. Mais c'est bien ce que je vous disais, que les passions, c'est un domaine intermédiaire. Et je pourrais parler des passions à la manière de Freud. L'instinct. Et je parle des passions dans la lumière de l'instinct. Je l'accapare. Ou je peux parler des passions dans la lumière du théologien, le Christ. Mais c'est peut-être le traité des passions qui est le plus comme ça, parce qu'il est intermédiaire. Donc je peux le tirer à moi. Vous savez, un traité des passions freudien, on le ramène à l'instinct. Un traité des passions psychologique, on le ramène. Un traité des passions vertueux, un traité des passions mystique. C'est très intéressant. Et la passion, vous voyez, là, elle est prise dans son exercice. Et alors, il faut à partir de là saisir ce qu'est la passion. Et le philosophe veut saisir ce qu'est la passion.